Causerie apéro concert en direct de la Zombé. Le joli mois de mois numéro 58. Tout cramé? Youtubercule. Vous n'y échapperez pas.
Marseille, le 1er juin 2025.
Alexandre Georges.
Madame la procureure.
Militant LGBT.
Le 1er février 2024, j'étais violemment frappée au visage par un policier en civil au cours d'une manifestation LGBT, après que ce même individu ait agressé un adjoint au maire de Marseille, que j'ai tenté de défendre en utilisant un spray au poivre. Fracturée par ce coup de poing, les os ne tenaient plus correctement mon œil droit, qui a tenté de sortir de son orbite le lendemain, endommageant irrémédiablement le nerf optique. J'en perdais ainsi l'usage le 2 février à l'âge de 26 ans. Comme le montrent clairement les vidéos de la scène, ni ce danger public, ni ses deux collègues n'avaient de brassard. Ils étaient venus perturber le cortège, tenant des propos qui ne nous faisaient pas douter de ce qu'ils pensaient de nous, avant de faire illégalement usage de la force. On aurait pu s'attendre à ce que ce voyou soit inquiété, mais non. Suite à ces événements, le policier porté plainte et ses collègues ont voulu me placer en garde à vue, ce que mon état de santé et les contraintes médicales qu'il impliquait ont rendu impossible. J'ai bien entendu déposé plainte, mais l'enquête a été confiée à une IGPN qui a investigué contre moi, cherchant tantôt à prouver que ce ne serait pas le coup de poing qui m'aurait rendu infirme, tantôt à démontrer que je l'aurais mérité. Après tout, ce que j'ai fait est grave, non ? Mais rendre cette enquête inutile ne suffit pas. Il faut aussi qu'elle soit pénible. Votre police est tout de même allée jusqu'à convoquer mon petit ami pour, entre autres questions déplacées, lui demander si ça le dérangeait de ne pas savoir où et avec qui je dormais certaines nuits. À ces questions intrusives, se sont ajoutées des auditions de témoins clairement orientées et des méthodes d'enquête agressives sur le corps médical. L'IGPN est tout de même allée chercher mon médecin traitant dans son propre cabinet. Apprenant cela, mon avocate et même l'adjoint au maire agressé ont dû intervenir auprès de vous et de la préfecture de police pour réclamer que cessent ces méthodes déloyales. Il n'en fut rien. Vous avez proposé à nos demandes la saisie par la puissance publique de l'intégralité de mes dossiers médicaux chez mon médecin et dans les hôpitaux, alors que vous aviez déjà tout. Autrement dit, l'enquête n'a pas plus avancé. J'ai dû me rendre à Montpellier, à votre demande, pour qu'une nouvelle expertise soit réalisée par un autre ophtalmologiste. Apparemment, les éléments saisis directement auprès du corps médical ne vous convenaient pas. Il fallait encore que j'aille dans une autre ville, comme si, d'un médecin à l'autre, un malvoyant pouvait redevenir valide. Et, Montpellier n'étant pas lourde, le diagnostic n'a pas été différent de ceux que j'ai déjà réalisés. Je suis aveugle de l'œil droit. Le nerf optique ne se régénère pas, et ce que l'on trouve à Marseille ou ailleurs. Mais voilà que je prends connaissance par mon avocate de cette nouvelle approche. Certes, je ne vois plus d'un œil, mais cette cécité est-elle réellement due au coup du policier ? Faisons de nouveaux examens pour être bien certain qu'elle n'est pas étrangère à la sortie de mon œil de son orbite au lendemain du coup qui m'a fracassé le crâne. Après tout, on ne sait jamais. Peut-être que l'IRM détectera qu'un petit lutin logé derrière mon œil s'amuse à débrancher les câbles. Tout ce cirque, plutôt que l'admission d'un fait simple, la police peut être violente. Croyez-moi, on peut l'entendre sans s'étouffer. Alors soit, puisqu'il faut démontrer que je n'étais pas déjà éborgne avant d'être éborgné, je mets fin à cette procédure ridicule en vous transmettant des examens ophtalmologiques antérieurs à l'agression. Ce n'est pas difficile à prouver, j'avais la même myopie à chaque œil avant qu'un chien de pétain ne me permette de faire des économies de lentilles correctrices. Vous avez déjà, me semble-t-il, obtenu les PEV dont les signaux électriques avaient clairement démontré l'atteinte de mon nerf optique. Vous avez, par votre désintéressement à ce dossier, devoir classer l'affaire d'un acte homophobe dirigé contre notre communauté par l'autorité publique. Compte tenu des dysfonctionnements successifs des institutions policières et judiciaires dans ce dossier, je ne m'attends pas à gagner le moindre procès, même s'il avait lieu. Je n'ai de toute façon jamais eu une telle certitude. Aucun éborgné par la police n'a obtenu justice à ce jour et rien ne laisse présager que j'aurai le droit à un traitement de l'heure. De plus, je ne souhaite pas continuer de faire comme si ce pays allait bien. Non, La police n'est pas l'alliée des personnes LGBT, et non, la justice ne peut rien lorsqu'un flic a décidé de, je cite, « casser du PD ». Ici, comme en Hongrie d'ailleurs, nous devons nous battre en connaissance de ce fait. Refusant de persévérer dans l'illusion d'une procédure utile et équitable, je retire ma plainte. Très cordialement, Alexandre Georges.
Et donc, pour signaler, Alexandre a été arrêté et placé en garde à vue ce lundi 13 pour violence sur personne dépositaire de l'État. Donc, c'est maintenant lui qui est poursuivi pour l'horrible agression qu'il aurait commise sur ce policier en civil qui lui a enlevé un œil. Donc, l'affaire continue et ça ne s'arrête pas. Et en fait, voilà, suite à cette lettre, en fait, l'État a décidé de contre-attaquer et de considérer que c'était lui le fautif. De quoi gerber, quoi, voilà. Mais si jamais des personnes ont des réactions, des interactions à donner à cette lecture, n'hésitez pas.
Réaction à chaud, du coup, et puis du coup, pas très organisée. Mais déjà, bravo aux camarades qui a pris le temps d'écrire deux pages au préfet, à la procureure de la République, parce que clairement, j'aurais pas fait la démarche d'écrire à mon bourreau. Et puis deux fois plus de soutien à lui parce qu'il a retiré sa plainte en se rendant compte qu'il n'y aurait pas de justice. Donc tout mon soutien aux camarades.
Moi, je vous propose un témoignage de quelqu'un qui a vécu il y a peu de temps l'apparition de la police à sa porte. Bah, tu vas raconter, hein, de toute façon, Michel.
Moi, mon histoire, cette histoire-là, elle commence, disons, un matin vers 10h, lundi, il y a 15 jours, où j'entends frapper à ma porte. J'ouvre la porte, il y a trois policiers qui veulent rentrer chez moi. Sans pouvoir donner des explications, etc. Quoi. Et je leur demande s'ils ont une décision de justice. Voilà, je reste. Ça dure une minute. Je leur dis, vous n'avez pas de décision de justice, je referme la porte. Et voilà, vous ne pouvez pas rentrer chez moi. Je referme la porte. Ils menacent d'enfoncer la porte, etc. Moi, je sais qu'il faut une décision de justice pour rentrer chez moi. Donc, je résiste. Je dis, moi, je ne vous ouvre pas, etc. Finalement, ils me disent qu'ils vont appeler le procureur. Et puis, finalement, ils partent. Deux jours après, cette fois-ci, il y a sept policiers qui arrivent presque à la même heure. Et cette fois-ci, ils ont une décision du juge des libertés et de la détention. Ils doivent faire une perquisition. Je les laisse faire leur perquisition. Je leur dis, allez-y, c'est bon, allez-y. Et en fait, ils sont venus uniquement pour prendre un drapeau palestinien que j'avais chez moi, du jour où il y a eu la grande manifestation intersyndicale, donc le 18 septembre, que j'avais déployé derrière M. Estrosi, en train de faire sur la place Masséna, il faisait un discours à l'attention d'une manifestation de pharmaciens qui a eu lieu l'après-midi. Donc je m'étais glissé, comme je suis un peu vieux, ils m'ont pris pour un Estrosi, donc j'ai avancé tranquillement. Et je me suis mis à droite de M. Estrosi, et j'ai sorti mon drapeau palestinien, et je l'ai déployé en le tenant par mes deux mains. Après, ils m'ont repoussé un peu, je me suis remis derrière en faisant la même chose, etc. Et après, je me suis fait, disons, agresser par les gardes du corps d'Escrozy qui m'ont frappé et qui m'ont plaqué au sol et qui ont appelé les policiers. Donc j'ai été envoyé une première fois au VAR. Mais ce qui est assez marrant, c'est que le policier qui m'a arrêté à ce moment-là, le chef de la police, il m'a envoyé au VAR pour vérification d'identité. Donc ça ne peut pas durer plus de 4 heures. Donc au bout de 2 heures, j'ai été libéré. Mais d'après ce que je comprends, le soir même, M. Estrosi a déposé une plainte contre moi pour violence avec arme par destination, en prétendant que je m'étais rué sur lui, que je l'avais frappé à plusieurs reprises dans les jambes avec la hampe du drapeau palestinien en question. Or, ce drapeau n'a jamais eu la moindre manche en bois, la moindre, etc. La raison donc de mon interpellation et de mon placement en garde à vue, c'est la plainte de M. Estrosi pour soi-disant violence volontaire avec arme par destination. C'est explicitement marqué. Donc, ce qui s'est passé, j'ai fait lors de ma déposition, je me suis battu sur chacun des mots, parce que c'est ça qu'il faut faire vis-à-vis de la police, c'est-à-dire imposer le fait de dire, d'écrire dans le procès-verbal ce que l'on veut dire. J'ai notamment fait remarquer à la fin de ma déposition qu'il y avait probablement des preuves de ce que j'ai avancé, parce que les preuves, elles se trouvent dans les vidéos que la mairie de Nice a faites, dans la mesure où il y a eu un reportage par la mairie. Il suffirait de voir ces vidéos pour voir si c'est M. Estrosi ou moi qui est le menteur. Quoi. Enfin, voilà. Par chance, l'adjointe du procureur qui était chargée de ce dossier a voulu faire son travail. Et elle m'a dit, voilà, J'estime que tous les éléments de preuve n'ont pas été exploités, notamment les médias. Je demande d'une certaine façon un supplément d'information. Donc, dans l'intervalle, vous êtes libre. Et donc, je vous demande de vous maintenir à la disposition de la justice. Donc voilà, je suis sous le coup d'une enquête préliminaire. Il faut bien comprendre quand même que violence avec arme par destination sur personne détentrice de l'autorité, M. Estrosi est maire de Nice, normalement, sa parole est incontestable. Il n'a même pas besoin de jurer devant le tribunal. Donc j'ai eu la chance de tomber sur une adjointe du procureur qui veut faire son travail, ce qui est exceptionnel. Mais il n'empêche que je suis toujours à la recherche de témoignages qui pourraient témoigner que mon drapeau n'avait strictement aucun manche en bois, c'est juste une pièce de tissu, etc. Si on arrive à prouver ça, toute l'accusation qui est portée contre moi s'effondre.
Je pense qu'au-delà des souffrances humaines et des drames individuels dans ces types d'affaires, au coût collectif de ce type de procès politique, de procès bâillon, c'est peut-être, malheureusement, au-delà du respect des droits humains, l'argument le plus entendable par la société actuellement, c'est que ces procédures abusives nous coûtent un pognon de dingue, comme dirait l'autre, et finissent toujours par être cassées soit par la justice française, soit par la Cour européenne des droits de l'homme.
En fait, j'ai 71 ans aujourd'hui. Non, c'est pas mon anniversaire, je voulais dire que je les avais. D'une manière plus générale, pour parler de violence policière, vu l'âge que j'ai, j'avais un père qui au départ était communiste, après est devenu maoïste, et enfin, mais était plus anarchisant que maoïste. Il m'a transmis les valeurs essentielles. Et en fait, ça, je me rends compte en écoutant tout ça que ça n'a pas tellement changé, puisque moi j'ai été majeur à 21 ans, quand je traînais à Saint-Michel pour aller chercher des bédos. Je me faisais embarquer toutes les nuits par la police. Et moi, la violence policière, je l'ai connue très tôt. Et donc, ça me parle tout à fait, puisque j'ai eu 3 condamnations dans ma vie. Mais les 2 premières, c'était pour outrage et rébellion à agent. Donc, je m'en suis pris plein la gueule à l'époque, au sens propre comme au sens figuré. Et je vois que ça n'a pas tellement changé, puisque de toute façon, les flics ont toujours raison. Moi, j'étais coursier à l'époque, donc j'étais en mobilette. J'arrive pas loin de Bastille, à Paris. Et devant, il y avait mon copain avec une copine derrière qui avait une jambe cassée, donc un plâtre. Et en fait, c'était interdit de rouler à 2. Donc très rapidement, il y a un flic qui interpelle mon copain et ma copine devant. Et je me permets d'intervenir. Bon, c'est vrai que j'ai pas eu peut-être la bonne... Et à partir de là, le flic me plaque sur le sol. Et là, je vois un mec au-dessus de moi. C'était un peu comme un film. Un boucher du coin avec le truc pour couper la viande, le hachoir, là, et qui dit là, Jojo, je vais m'en occuper. Et donc, en fait, je me suis rapidement retrouvé au commissariat, et pendant le procès, évidemment, c'est un peu différent. J'ai eu des témoignages de pas mal de gens de ce quartier en disant que le policier s'était jeté sur moi avec une violence inouïe qui m'avait massacré, quoi. J'en ai pris autant quand je suis arrivé au commissariat. Et donc, je vois que la répression n'a pas changé. Donc, je suis révulsé. Enfin, je suis vraiment très en colère et je continue mon combat, justement, et je le continuerai jusqu'au bout par rapport à cette discrimination, à ces violences. Voilà.
Merci, Patrick. Merci, c'est trop cool. On a d'échanger ce témoignage, merci beaucoup.
Alors, anarchie. Je commence à lire ? Ouais, allez, c'est parti. Anarchive, pourquoi lutter ? Analyse anarchiste communiste. L'époque est au chacun pour soi et au tout contre tout. La propagande portée par l'idéologie dominante nous pousse au repli individuel en nous faisant croire qu'il est impossible de changer les choses collectivement, que les seules possibilités de changement sont à la marge et à grand renfort de petits arrangements et de clientélisme. On nous présente l'ordre actuel comme un horizon indépassable, quand on ne nous explique pas que la dégradation de nos conditions de vie est inéluctable. Certains d'entre nous cèdent au découragement. Dans notre entourage, les collègues, les voisins, nombreux et nombreuses, sont celles qui cèdent au découragement, après avoir parfois passé des années à lutter, à se battre, pour se défendre, pour défendre leurs intérêts, leur liberté, faire reculer l'oppression. Pour d'autres, l'idée de la lutte collective ne leur est jamais apparue comme une possibilité qu'ils pouvaient mettre en œuvre. Convaincus par le discours dominant, découragés devant les difficultés que pose la lutte ou devant le risque de répression. Le recul du mouvement ouvrier et plus largement des luttes populaires, de l'idée de solidarité, les échecs des mouvements sociaux ont puissamment contribué à renforcer cette tendance. Pourtant, il faut affirmer et répéter cette évidence. Le chacun pour soi, c'est tout le monde dans la merde. Tout le monde, à l'exception des classes dominantes. Nous avons besoin de la solidarité collective pour nous en sortir. C'est parce que les êtres humains se sont regroupés dans l'histoire qu'ils et elles ont réussi à faire face aux difficultés de l'existence. C'est en se regroupant qu'ils ont pu affronter les classes dominantes et faire reculer l'exploitation, faire progresser leur existence. Comme exploités, la lutte collective est un moyen de défendre nos intérêts, parce qu'elle crée du rapport de force face aux exploiteurs et aux exploiteuses. Elle nous permet de faire progresser nos conditions de vie, ou tout du moins éviter ou de ralentir leur dégradation. Parce qu'elle nous donne les moyens d'arracher aux exploiteurs un peu de ce qu'ils nous volent, de contester leur pouvoir et de reprendre ainsi du pouvoir sur nos vies. Elle fait jouer la force collective qui est plus que l'addition des forces individuelles, dans le sens de la progression de notre situation individuelle, sans que cela se fasse au détriment des autres exploités et dominés, comme c'est le cas dans les stratégies purement individuelles. Elle nous permet aussi de prendre conscience de notre force et de mettre à nu les mécanismes de domination en brisant par là même les logiques de culpabilisation individuelle de l'idéologie dominante qui renvoie à chacun et chacune d'entre nous la prétendue responsabilité de notre situation, en masquant ainsi le rôle des rapports sociaux induits par le capitalisme, l'État, le système raciste et le patriarcat, et plus globalement par les rapports sociaux hiérarchiques. Mais la lutte collective est avant tout un moyen de défendre notre dignité. Car même si parfois nous perdons, faute d'un rapport de force suffisant, nous marquons notre refus d'accepter notre situation d'asservissement. Défendre notre dignité, c'est un premier pas pour nous réapproprier notre vie. La lutte collective qui ajoute à l'addition du refus individuel la force collective, l'action concertée, nous permet de rendre des coups aux exploiteurs, de briser la spirale fataliste qui voudrait faire de nous des spectatrices et des spectateurs de nos vies. Cette spirale, c'est celle de l'aliénation que produisent le système hiérarchique et l'ensemble des systèmes de domination qui se fondent sur ce principe, qui nous dépossède de notre vie, de nos pensées, pour nous imposer une vie et un mode de pensée conforme à l'idéologie dominante. Cette question de la dignité est fondamentale, parce que la dignité est la ressource qui nous permet d'affronter un rapport de force défavorable. Elle peut parfois se réfugier dans des détails anodins, en période d'oppression généralisée. La défense de notre dignité et de nos intérêts ne s'arrête pas à notre seule situation individuelle. Elle passe par le refus généralisé de la domination et de l'exploitation, par la défense de la dignité de l'ensemble des exploités, parce que c'est la condition de notre propre libération, de notre propre émancipation. Mikhaïl Bakounine avait ainsi raison d'affirmer que « je ne suis vraiment libre que lorsque tous les êtres humains qui m'entourent, hommes ou femmes, sont également libres. La liberté d'autrui, loin d'être une limite, ou une négation de ma liberté, en est au contraire la condition nécessaire et la confirmation. C'est parce que nous trouvons dans cette éthique un outil d'émancipation individuelle et collective, mais aussi le ressort matériel de notre dignité, en possédant les principes de réciprocité égalitaire d'une association qui se fasse au profit de la collectivité et non d'une minorité dirigeante ou exploiteuse, que nous en tirons la nécessité de lutter collectivement, de faire vivre la solidarité entre toutes les individus, ce qui suppose de combattre toutes les formes de hiérarchie politique, économique et sociale.
Merci pour la lecture. Et du coup, ceci est un texte anonyme que vous pouvez trouver sur The Anarchist Library, enfin Bibliothèque Anarchiste, un endroit où vous avez beaucoup de ressources en fait, de textes libertaires en accès libre.
Bonsoir tout le monde. Je profite de vous avoir tous ici pour vous annoncer qu'on fait une manifestation pour la Palestine samedi à Grasse. Je sais que c'est un petit peu loin pour les Niçois. Nous, on n'a pas de problème pour venir jusqu'à Nice, hein, je ne sais pas pourquoi. Pour les Niçois, c'est toujours compliqué d'aller à Grasse, mais disons que comme c'est une petite ville, malgré que ce soit une préfecture, on a besoin de soutien pour cette manifestation. C'est la première, mais voilà, on a besoin de vous tous. C'est à partir de 10h30 au Jardin des Plantes à Grasse, et ça nous ferait plaisir de vous y voir, quoi. Voilà.
Et j'ai fait mon lycée à Grasse, et je vous assure, c'est une ville incroyable, franchement, on se régale. Vraiment. Est-ce que quelqu'un aurait une autre prise de parole à...
C'est pas directement lié à un des articles, c'est peut-être un débat. C'est vrai qu'à Grasse, on n'a pas rarement autant de gens de très à gauche et anards au même endroit. Et on a un petit club de lecture anarchiste à Grasse qui s'est transformé cet été en plutôt bibliothèque éphémère. Et comme il n'y a pas beaucoup d'anards à Grasse, on est avec beaucoup, les personnes les plus mobilisées à Grasse et un peu aussi dans tout le département. Hein, finalement, c'est beaucoup LFI. Mais c'est vrai que dans les débats, il y a quelque chose qui revient beaucoup. En tout cas, moi qui me pose beaucoup de problèmes dans les débats, et je ne sais pas comment vous affrontez cette question-là. Il y a une négation de beaucoup de crimes du communisme qui est faite de manière systématique dans les discours. Et c'est super dur quand on veut débattre de sujets de fond. On en arrive en fait finalement souvent à cette question-là de défense de régimes communistes qui ont fait des millions de morts. Et moi, mon avis est que ça ralentit la gauche dans son ensemble. La question elle est affrontée ici. Je trouve qu'elle n'est pas beaucoup affrontée. Et s'il y a du temps pour débattre, je lance ce sujet.
Merci. Ouais. Après, je pense que la question, ça, ce serait de qu'est-ce qu'on appelle le communisme. Enfin, moi, je suis anarchiste, on est anarchiste. Et je ne vais pas accabler mes camarades communistes sur les crimes de Staline, parce que pour le coup, ce n'est pas du communisme. Enfin, c'est du capitalisme d'État. Mais par contre, je pense que ce serait... Après, c'est un vrai débat à avoir. Hein. Enfin, c'est à qui on attribue les crimes de l'URSS, par exemple. Enfin, est-ce qu'on l'attribue à la gauche ? Sachant que ça ressemblait pas de ouf à un programme de gauche qu'ils ont appliqué. Hein. Enfin, c'est normalement la déportation des opposants politiques, l'inégalité absolue, etc. Enfin,
oui, déjà, effectivement, les communistes ont massacré aussi des anarchistes, donc c'est pas trop nos copains-copines. Quoi. Non, moi je crois qu'effectivement, il faut regarder ça en face quand même et se dire que on peut considérer l'idéologie communiste comme... avec un ver dans le fruit, parce que finalement la dictature du prolétariat de Marx, certes c'est une dictature des prolétaires, mais ça reste une dictature dans l'idée qu'on se fait d'un régime achevé. Donc déjà il y a un problème dans l'énoncé qui est celui-ci. Ensuite, effectivement, il n'y a pas eu que l'URSS, il y a eu la Chine de Mao, il y a eu Pol Pot, il y a eu quand même un certain nombre de régimes qui se sont réclamés de cette idéologie-là. Et qui ont fait effectivement des millions de morts. Quand on regarde, il y a eu un fort soutien. Quand on regarde les vieilles unes de Libération ou de l'Humanité encore, jusque dans les années 70, hein, alors que quand même une grande partie du monde occidental commençait déjà à savoir ce qui se passait à l'Est, on a fermé les yeux pendant un très long moment. Donc je suis d'accord avec toi qu'on se traîne ce boulet-là. Après, nous, effectivement, en tant qu'anarchistes, pas trop. parce que les anarchistes sont des gentils et sont toujours massacrés par tout le monde. Mais après, je suis d'accord avec toi qu'on doit considérer dans notre camp que la hiérarchie qui est induite par la bureaucratie d'État, l'idéologie communiste qui vise quand même à purger la société, à une révolution anthropologique aussi, c'est ça, hein, quand même, c'est de changer l'humain, quoi. Ça doit nous interroger sur les finalités finalement de cette idéologie-là. Donc je te rejoins assez largement.
Du coup, pour répondre à ta question, moi ce que je fais quand je suis face à ce genre de rhétorique où on va remettre en lumière des mouvements déguisés en cheval de Troie, donc du fascisme caché derrière des mouvements ouvriers, moi ce que je propose aussi c'est de mettre en lumière tous les morts invisibles des systèmes actuels libéraux, capitalistes, les morts des colonies, les morts des dépassements d'écologie, les morts au travail, les suicides, la dépression à cause d'un système qui est libéral et qui nous casse tous le crâne. Et donc voilà.
Pardon, désolé, mais justement, moi, je disais l'inverse. En fait, moi, je fais partie de ceux qui veulent mettre en lumière les crimes du communisme Et moi, je suis assez en désaccord avec le fait de dire que c'est du fascisme qui fait genre ils sont communistes. Moi, je pense que réellement, l'application du communisme au niveau étatique, l'application du communisme, tout simplement, fait des millions de morts. Beaucoup de des camarades militants, quand même, quand on débat sur le fond, je ne sais pas pourquoi, on arrive souvent à ces questions-là, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on veut sur les choix de société, comment on s'organise? Les exemples qu'on me donne, c'est des régimes qui ne sont pas du tout démocratiques, pas du tout pour la liberté d'expression, pas du tout à toutes les étapes de l'URSS en l'occurrence, mais c'est le Cambodge, en effet la Chine, en effet la Corée du Nord, en effet le Venezuela, Cuba, énormément de pays. Moi, je suis vraiment pour qu'on mette en lumière ces crimes, en fait.
Moi, je ne suis pas d'accord non plus avec l'idéologie communiste pure et dure. Donc, c'est pas moi qui vais te contredire. Mais moi, je pense que la question maintenant, c'est comment faire en sorte que les gens aient plus peur des mouvements ouvriers, pas forcément du communisme, mais de tout le mouvement ouvrier, et qu'ils soient plus diabolisés.
Mais une tentative de communisme, c'est pas du communisme. De dire l'URSS, la Chine, c'était des tentatives qui étaient basées sur une théologie communiste qui ont été dévoyées. Ça ne veut pas dire que c'est du communisme. Et du coup, on a décrédibilisé tout le mouvement communiste avec des tentatives qui, en fait, ont eu leurs défauts, n'ont pas bien abouti, ont eu leurs tendances fascistes et leurs dérives. Mais ça ne veut pas dire que l'idéologie n'a pas d'application politique viable. C'est juste qu'elle a été mal faite, peut-être.
Je ne défendrai pas le communisme parce que ce qui a été appliqué était très loin des théories philosophiques, politiques, sociologiques, avant que la sociologie n'existe. Pour moi, aujourd'hui, l'instrumentalisation de la critique du communisme, elle est le fait du capitalisme dominant et de priver chacun, chacune d'une identité dans la description de la société que faisaient les penseurs communistes très tôt. Ben depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on nous a fait croire que posséder, c'était être libre. On nous a fait croire qu'il existerait une espèce de classe intermédiaire entre le bourgeois possédant et le prolétaire. On nous a fait croire que si on faisait un crédit pour acheter notre maison, notre voiture, notre machin, on allait sortir de notre situation honteuse depuis la sueur. Et je pense qu'ici, tous et toutes, autant que nous sommes, notre seule richesse, c'est notre force de travail. La critique du communisme, elle est à faire. La critique des crimes qui ont été commis, elle est à faire. Mais aujourd'hui, ça sert surtout la classe des dominants. Mais il ne faut pas oublier que nos identités, même si elles sont mouvantes, même si on peut se déplacer, au vu de l'économie et au vu de la société capitaliste dans laquelle on est, il n'y a pas 36 solutions. Tu es soit prolétaire, soit bourgeois. Soit tu peux te passer d'aller bosser tous les jours, soit tu ne peux pas. Et je passe la parole à la personne suivante.
Alors bonsoir, mon prénom c'est Victor. Je pense que je vais aller à contre-courant de beaucoup d'idées ici. Selon ce que j'ai compris de ce qu'était le communisme, c'est d'abord un idéal. C'est d'abord une vision du monde. C'est d'abord la solution que propose Marx à une classe prolétaire qui souffre à cette époque-là. Et ensuite, il y a une autre partie de sa théorie qui est le socialisme aussi. Et le socialisme, c'est l'application par la politique, par les instruments politiques, du projet, de l'idéal. Et par là, il le dit très bien, il le dit, il faut passer par une dictature. Une dictature du prolétariat. Malheureusement, Staline avait compris tout ça. Et dans son projet communiste, il y avait d'abord le socialisme. Il y avait l'idée d'instaurer ce système dictatorial qui ferait le tri parmi les bourgeois, parce qu'il y a eu tout un tas de procès aussi, notamment les procès de Moscou, où tout ce qu'il fait, en fait, il coupe la tête à toute la bourgeoisie qui résiste, par exemple la bourgeoisie trotskiste. Et pour finir, moi, je pense sincèrement que les morts liées au communisme, c'était écrit, c'est une période d'instabilité terrible. Il y a aussi une grosse résistance royaliste à cette époque-là. Un autre désir identitaire aussi. Le royalisme, c'est pas du tout la défense des bourgeois dans l'histoire de l'Occident. Au contraire, depuis le XVIIe, XVIIIe siècle, depuis la Révolution française, grossièrement, la bourgeoisie s'est réfugiée dans l'idéologie des Lumières, la royauté est vue comme symboliquement quelque chose auquel le peuple peut se rattacher pour avoir une morale représentée à l'échelle de l'État, du politique, pour pouvoir la confronter à la morale du capital, à la morale de la bourgeoisie. Donc les 6 millions de morts, quelque part, c'était un peu inévitable.
C'est quand même hyper grave. On se calme de quoi ? C'est très grave. Les morts du communisme. Bah oui, enfin quand j'ai le droit de m'énerver quand il y a des choses qui sont clairement de légitimer des, selon toi, 6 millions de morts qui devraient être légitimes parce que face à tant de résistance capitaliste, bah de toute façon on fait pas d'omelette sans casser des œufs encore une fois. Mais dès Lénine, il y a eu des opposants politiques qui étaient assassinés, des gens déportés, des journaux interdits, et ça, on peut pas se dire « oui, mais ». C'est, je sais plus qui a dit ça tout à l'heure. « Oui, mais ». Ah oui, il y a tout ça, mais c'est quand même... à côté de ça, il y a le capitalisme, quand même. C'est pas ça la question. Aucun idéal ne justifie de faire des morts.
Peut-être, voilà, le débat est riche et intéressant, et après ne pourra pas être conclu en si peu de temps. Et du coup, peut-être, on prend... donner la prise de parole, et ensuite, on va donner...
Voilà. Moi, je suis très heureux que tu aies posé cette question. En réalité, le communisme, ça commence avec Buonarroti, conspiration des Edo pendant la Révolution, la Grande Révolution française. Le communisme, ça commence à ce moment-là. C'est lui, c'est la première fois qu'on parle de communisme. C'est lui qui veut instaurer une égalité entre tous les citoyens. Une utopie, bien sûr. Voilà, bon, il se fait rétamer par la Révolution de l'époque. Le communisme, c'est ensuite la Commune de Paris. Pendant 3 mois, si tu veux... il y a une idée du communisme qui se met en place à Paris avec des améliorations sociales considérables, si on réfléchit, hein, donc à ce qui est décidé. Il se trouve que la Commune de Paris, elle est réprimée par le sang. Elle fait 30 000 morts, 40 000 déportés qui sont envoyés en Nouvelle-Calédonie, etc. Et qu'à ce moment-là, seulement à ce moment-là, Marx et Engels rajoutent dans la préface du manifeste du Parti communiste une phrase. Leur conclusion de ce qui s'est passé, de la répression, c'est de dire « ça ne pourra se faire que par une phase de transition qu'ils appellent la dictature du prolétariat ». Mais si vous prenez la totalité de l'œuvre de Marx et Engels, ça n'a jamais été développé. Il y a juste une phrase dans le manifeste du Parti communiste qui parle de ça. Et de fait, c'est ce qu'il va appliquer. Quand on dit « c'est les crimes de Staline », ce n'est pas vrai. Dès janvier 1918, Lénine fait tirer sur les ouvriers qui réclamaient le fait que l'Assemblée constituante soit réunie, ce qui était prévu, y compris par les bolcheviks, Lénine fait tirer sur la foule dès janvier 1918. Je signale, moi qui ne suis pas anarchiste, que la première chose que fait Lénine, c'est de liquider les anarchistes, quand même. Je pense qu'en réalité, on n'a aucune raison de défendre cela. Et je suis heureux qu'en tous les cas, cette question soit posée, parce que si on veut que nos idées progressent, si tu veux, il faut être absolument clair là-dessus, quoi. Voilà.
Bon, moi, je fais une prise de parole hyper brève. C'est simplement pour dire que là, on parle du marxisme, de son héritage, etc. Là, on est en train juste de reproduire des rapports sociaux, là, qu'on est en train de s'imposer ça, clairement. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, il n'y a que des mecs qui parlent. Et on parle de démocratie, on utilise des mots, on fait des cours d'histoire. Clairement, il faut repartir de la base. C'est-à-dire que moi, le marxisme, je ne suis pas historien du marxisme, je ne suis pas historien du communisme. Je ne vais pas vous faire des grandes théories là-dessus. Moi, j'ai 3 principes. C'est-à-dire que tu parlais des crimes du communisme. Moi, je ne connais pas le communisme. Je ne connais pas le marxisme. Le marxisme, il y a autant de théoriciens, de théories marxistes qui existent, de pratiques, en fait. Et du coup, aujourd'hui, le marxisme, ce qu'il était au 19e siècle, ce qu'il est aujourd'hui, ça a été complètement transformé. Aujourd'hui, il y a les questions écologiques, il y a les questions... il y a une critique, en fait, ça que je veux dire, du marxisme. Du coup, oui, pour la critique des crimes, et il faut le prendre en compte, et il faut... l'intégrer à notre réflexion. Maintenant, genre dire que tous les régimes communistes, surtout qu'on a des copains anarchistes ici qui ont beaucoup à nous dire sur la place de l'État, dans la pratique de l'extermination de masse des populations, je pense que vous avez des choses à nous dire là-dessus et de comment ça s'est passé. Moi, maintenant, ce que je veux mettre en place dans le débat, c'est la question de la pratique. Et là, ça commence par là, en fait. On a un débat, qui prend la parole? Et voilà, je vais m'arrêter là. J'ai pas grand-chose à dire de plus.
Alors, tout ça, ça remue, et merci d'avoir posé la question. Moi, tout ce que ça me donne comme réflexion, c'est l'histoire. C'est d'où on vient, où on en est, et où est-ce qu'on veut pas aller. Ouais. Eh ben, on lâche rien. Qu'on soit des anarchistes, et des communistes, et des gauchistes, et en fait, l'inhumanité nous prouve tous les jours et encore aujourd'hui que que bordel, demain on peut être mort tous, chacun d'entre nous dans cette pièce-là. On peut être touché par un tir de LBD, on peut être tapé par des fachos qui se battent contre des antifas, qui se battent contre des anarchistes, qui se battent contre tout ça. Et en fait, oui, il faut qu'on s'engueule, et merci d'avoir posé la question. Donc, on lâche rien, non. Et j'y vais. On lâche rien. Ok ? Merci. On lâche rien. C'est bon, il n'y a plus personne qui veut la parole.
Et maintenant, Cumbia ! Bah, en vrai, ouais, on va. Maintenant, on va commencer à danser parce que du coup, on a beaucoup débattu, c'est super intéressant et merci à tous. Et maintenant, on va faire laisser place à Nico ! Ouais, Nico !
YouTube Hercule. Vous n'y échapperez pas.